Bonjour pour ce 25e numéro de Reconfinez-vous à nous. Nous avons en compagnie de Valentin Beauvalet.
Oui, monsieur Songer.
Joint par téléphone François Lemoine.
Oui, François, confiante, j'écoute.
Coordinateur stratégique au sein de la coopérative cyclo-logistique Les Coursiers Nantais. Le projet germe dans la tête de 5 coursiers livreurs en 2017.
Tout à fait. En 2017, en fait, il y a donc 5 coursiers livreurs qui se sont dit, tiens, on va monter une coopérative, on en a marre des plateformes. Ils étaient tous chez Deliveroo, Uber Eats, Take It Easy, etc. Et ils ont eu cette volonté de créer leur propre structure. Ils sont d'abord créés en mode association, en préfiguration pour être une coopérative. Moi, je travaillais à l'époque dans une autre scope qui s'appelle Titual, qui fait du transport de personnes. On envisageait la livraison un petit peu pour que les contrats soient un peu moins précaires, donner un peu plus d'heures aux conducteurs. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les gars, créateurs d'origine, pour se mutualiser en fait sur les livraisons. Puis du coup, j'ai pris un gros coup de cœur sur le projet et on s'est dit, bon, bah, on va faire un bout de chemin ensemble, petit à petit. Donc en fin 2018, on s'est fait accompagner par l'Union régionale des SCOP et dans la foulée, accompagnement par les Écosolis, donc sur l'incubateur, pour toute l'année 2019, on puisse avoir cet accompagnement avec un passage en SCOP au 1er janvier 2020.
Le statut associatif, c'est un passage obligé ?
C'est un passage qui est obligé, oui ou non. On aurait pu se mettre directement en SARL. Après, l'objectif, c'était aussi de voir quelle était la stabilité du projet, évidemment, parce que à partir du moment où c'est innovateur, il y a la découverte de voir est-ce que oui ou non le marché est prêt à nous recevoir et est-ce que oui ou non ce que l'offre que l'on donne, elle est adaptée aussi à ce marché-là. La réponse est oui, vu qu'aujourd'hui, on est encore présent.
Et c'est comme ça que vous avez défini à la fois les 3 zones de livraison et le mode de livraison, donc ça va du vélo simple au vélo cargo à remorque.
Oui, tout à fait. Alors les zones de livraison, elles ont été travaillées au fil du temps. On était d'abord très concentrés sur le centre-ville et puis à un moment donné, il y a eu un petit peu cette réflexion de se dire mais pourquoi il n'y aurait que le centre-ville qui aurait le droit à une solution décarbonée, à un transport propre. Et donc on s'est dit bah autant étendre. Dans un premier temps, on va juste étendre les flux. Et là, la deuxième partie, ça va être aussi la réalisation un petit peu d'agence, hein, enfin d'autres points de stockage dans lesquels, du coup, ça va nous permettre d'avoir une meilleure rentabilité aussi sur les zones de livraison et puis de proposer plus de services. Parce que c'est évidemment la livraison à vélo, vélo cargo, vélo remorque, mais c'est aussi la logistique urbaine pure et dure, donc avec une zone de stockage. Évidemment, du click and collect aussi, qui va petit à petit être de plus en plus présent, parce que c'est comme ça qu'on peut avoir une présence administrative plus importante, recevoir les marchandises plus facilement, être au plus proche et après des zones de livraison pour être vraiment sur le dernier kilomètre, enfin les derniers kilomètres dans tous les cas. Puis aussi, nous, on est présent sur le transport de froid positif, c'est quand même ultra sensible. Il y a énormément de travail à faire par rapport à ça pour respecter les normes, etc. Donc c'est important d'utiliser le bon matériel. Et c'est là où, du coup, on a énormément investi sur le matériel pour le vélo. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur vélo, vélo cargo, vélo remorque, pour pouvoir s'adapter, évidemment, à tous les types de livraison que l'on fait, que ce soit en froid positif, comme on disait tout à l'heure, avec les équipements qui vont sur les cargos, ou que ce soit sur la livraison de colis, pour avoir la remorque bien adaptée, parce qu'il y a aussi derrière le positionnement de la personne, parce que c'est important au niveau du dos, etc., de ne pas avoir à se baisser quand c'est des colis. Il faut avoir donc une remorque plateau, si c'est pour faire du transport d'un fauteuil ou d'un... Enfin, je ne sais quel encombrant qu'il pourrait y avoir. Hein. Ça peut être un canapé, par exemple. Il y a toujours un matériel à adapter et donc des investissements à faire par rapport à ça.
Quand vous parlez de froid positif, ce sont des températures au-dessus de zéro, donc vous ne livrerez pas de vaccin anti-Covid.
Alors...
c'est pour nous inscrire dans l'actualité.
Alors, honnêtement, aujourd'hui, non. Peut-être à l'avenir, on se demande des investissements encore supplémentaires et je ne sais pas si le froid négatif sera aussi porteur sur le vélo, vélo cargo, vélo remorque là sur l'année 2021. Déjà, le froid positif, effectivement, au-dessus de zéro, c'est une très bonne chose. Ça permet déjà aux entreprises de s'y faire parce que la livraison à vélo, c'est quand même pour eux encore un petit peu spécial. Mais c'est qui ceux-là qui proposent cette livraison à vélo en froid en plus? Est-ce que c'est bien? Est-ce que les normes sont respectées? Et donc, nous, évidemment, il y a un contrôle avec des sondes USB, ce qui nous permet de regarder la température et le suivi dans le transport et à la livraison, évidemment, et puis après, de pouvoir envoyer ce suivi-là directement au client. Je pense que pour le surgelé, c'est une étape supplémentaire qui va arriver prochainement, Mais non, pas pour le vaccin anti-Covid, je pense pas.
Il y avait un marché à prendre, c'est pour ça, donc je le suggérerais.
Et justement, comment vous avez choisi votre secteur de marché de livraison comme ça, plutôt on va dire de colis en fait, si on résume, alors qu'au démarrage, les livreurs travaillaient pour les plateformes qui, elles, sont plutôt sur le domaine du déjeuner et des repas à livrer, quoi.
Honnêtement, le transport de colis, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est plus facile, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de température, hein, de façon générale, ça s'emboîte plus facilement, ça ne va pas se renverser, donc c'est plus agréable. C'est vraiment le transport préféré de tous, avec le pli, évidemment. Les transports qui peuvent être en mode sac à dos, vélo aussi, hein, c'est où on se fait plus plaisir que sur le transport cargo ou remorque, qui sont beaucoup plus lourds. Hein. Évidemment, il y a moins cette notion de plaisir qui va rentrer en jeu, entre guillemets. Et après, ça dépend aussi des marchés. Là, l'objectif, c'était aussi de se dire, eh bien, effectivement, Uber et Deliveroo vont être durs à combattre. Par contre, il y a deux possibilités de stratégie. Par exemple, l'approvisionnement. Donc, aujourd'hui, on travaille avec le Mine de Nantes. Sur l'approvisionnement, en fruits, en légumes. On travaille avec des boulangeries locales pour l'approvisionnement du pain aussi quotidien, pour les épiceries et restaurants. Là, il y a ces autres possibilités. On est aussi sur le transport de viande, par exemple, en foie positif. Il faut aussi cette alimentation sur les crèches, par exemple. Il y a plein d'autres possibilités. On se dit, en fait, c'est ces marchés-là qu'il va falloir prioriser. Le transport de repas, on en fait aussi, mais sur du groupe de personnes. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas, dans la mesure où le Covid ne nous permet plus de faire la livraison de repas comme on le souhaite, pour 10 à 120 menus, on l'a déjà fait par exemple en une seule fois. Oui, ça c'est notre métier. Mais la livraison en mode one shot pour combattre des rendez-vous sur leur propre terrain, c'était pas notre souhait.
Vous pouvez transporter jusqu'à 250 kilos.
Oui, tout à fait.
C'est pas un objet de 250 kilos, parce qu'il faut le déplacer, c'est plusieurs objets cumulés qui peuvent aller jusqu'à 250 kilos.
C'est plusieurs objets, effectivement. En fait, ça va même jusqu'à 300 kilos. Mais honnêtement, je sais pas comment on pourrait remplir, avec du plomb peut-être, la remorque à 300 kilos. Aujourd'hui, ce qui va être le plus lourd, ça va être la viande, évidemment. Voilà, dès qu'on fait du transport de viande, on peut atteindre des poids assez conséquents. Après, il y a les livres aussi, parce que on travaille avec les libraires locaux, que ce soit du livre pour du particulier, donc là, on peut être en mode sac à dos, ou alors pour les collectivités. Et donc là, on est sur du poids lourd, on est entre 100 et 150 kilos de livres par livraison. Voilà, donc ça, généralement, ça remplit déjà à peu près la remorque. Après, ça peut aller un peu plus, évidemment. Mais le but, c'est aussi de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire sans assistance électrique? Parce que tous nos vélos cargo ne sont pas assistance électrique. Parce que c'est aussi ça, l'objectif, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire le plus écologiquement possible. Parce que la livraison à vélo, c'est très bien, évidemment. Si on rajoute une assistance électrique, c'est un petit peu moins écologique déjà, évidemment, on le sait. Mais elle est parfois nécessaire quand on arrive sur certains poids, comme 200-250 kilos, évidemment.
Si j'habite en haut de la butte Sainte-Anne, c'est plus cher parce qu'il y a plus d'efforts à fournir.
Non, c'est pas plus cher. À partir du moment où ça reste dans les mêmes zones, on travaille vraiment par zone. Et en soi, on a de la chance à Nantes. On est quand même dans une zone assez plate. Effectivement, il y a quelquefois quelques montées qui sont un peu plus fortes. On pense fort à nos collègues un peu plus dans le sud de la France, qui eux peuvent avoir des côtes assez incroyables à monter.
Il y a un tarif de base, alors je ne sais plus, c'est 6 ou 7 euros de mémoire, le premier tarif, mais ça correspond à quoi? À 15 minutes de déplacement?
Alors en fait, au niveau de la tarification, c'est généralement fait surtout à la demande. Chaque cas va être un peu différent. Là, c'est plus pour donner un ordre d'idée, effectivement. Si on a un colis à déplacer à 500 ou à 1,5 km, et qu'on prévient la veille pour le lendemain, on peut se retrouver dans ces tarifs-là, avec plusieurs colis ou avec plusieurs magazines à distribuer, par exemple. Il y a 10 magazines à distribuer, on va faire 6 euros le point de livraison parce qu'on est en mode sac à dos. Mais il y a beaucoup de paramètres. En fait, on est sur 12 paramètres que l'on prend en compte lors d'une livraison, que ce soit le type de livraison à faire, du colis, du froid, les horaires, est-ce que c'est mutualisable, est-ce que ça ne l'est pas, le poids. Il y a énormément de conditions qu'on prend en compte lors d'un calcul tarifaire.
Donc ça prend du temps de passer sa commande?
Non, c'est rapide parce qu'on a des outils, on a des outils.
Et est-ce que vous avez analysé par rapport aux offres, on va dire, non écolo, quelqu'un qui voudrait faire la même chose, quelle est la différence de tarif entre vous et une autre structure qui, elle, serait avec des voitures ou des scooters, par exemple?
Eh bien, tout dépend de ce qui va être à livrer, mais si on prend le colis, par exemple, sur la partie colis, si on prend l'exemple de la poste, parce qu'il y a des livraisons à faire, eux, c'est très, très centralisé, en fait. Ils sont par code postal. Il y a encore des zones à l'intérieur de chaque code postal sur lesquelles les livraisons se font. À l'heure, on va distribuer autant, voire plus de colis qu'un véhicule utilitaire. C'est plus facile à manier. Du coup, je vais faire le calcul, On n'est pas plus cher, en fait. On est plus rentable pour un même prix, en fait, tout simplement.
Si les libraires font appel à vous, par exemple, c'est parce que vous êtes dans les tarifs du prix de la livraison. C'est pas uniquement parce qu'ils ont envie d'avoir une livraison carbone.
Je pense qu'il y a un mix des deux. Il y a un choix, hein, généralement, quand on fait appel à nous. Les personnes aiment bien que ce soit fait à vélo ou vélo cargo.
Bien sûr.
Puis après, effectivement, on est concurrentiel d'un point de vue tarifaire. Donc oui, c'est intéressant pour eux. Puis surtout, on a une réactivité aussi qui est peut-être un peu plus forte, puisque c'est aussi le domaine du vélo, où la réactivité prime sur le reste.
Je reviens sur l'exemple des libraires. Ce sont les libraires qui prennent en charge la course. J'ai pas compris, j'ai l'impression que c'était plutôt le client, non ?
Oui, alors c'est le client, effectivement, mais c'est le choix du libraire de proposer nos services de livraison. Ça, c'est pour le particulier. Par contre, pour les professionnels, les libraires avec qui on travaille, eux font le choix de passer par nous sur la zone intérieure périph.
Vous êtes 13 salariés aujourd'hui, donc c'est un modèle économique qui permet 13 salaires, mais à quelle hauteur ?
Alors, aujourd'hui, on a eu un développement rapide qui fait que la base salariée est toujours la même, c'est-à-dire qu'on est sur le SMIC plus 15 ans. Voilà, ça, c'est ce qui a été ajouté cette année. On va attendre d'avoir un peu plus de stabilité sur l'année prochaine ou de ne pas avoir en tout cas une croissance double en un an pour commencer à prendre en compte les augmentations salariales, à savoir aussi que certes, les salaires vont augmenter, mais on a énormément investi sur de l'équipement pour pouvoir absorber toute la croissance, évidemment, parce que le but, c'est toujours d'avoir la même qualité de service et à aucun moment de baisser cette qualité de service, que ce soit en matière d'équipement pour le froid. Par exemple, on est en train d'acheter tous les équipements pour les salariés, c'est-à-dire pour qu'ils aient une baisse de pluie. Alors, tout le monde a déjà son t-shirt, son maillot, ses chaussettes, mais on va rajouter aussi les shorts, etc., pour que tout le monde soit bien équipé par les coursiers montés. Enfin, voilà, ça fait partie des valeurs ajoutées aussi qu'on souhaite avoir au sein de la SCAP.
Et la moyenne d'âge de l'équipe ?
Il faudrait qu'on la calcule, mais je pense qu'elle doit être autour de 33 ans. On en a un qui en a 56, qui fait un petit peu augmenter l'âge de l'équipe.
On prend sa retraite quand on est cycliste, transporteur, comme tout bon salarié, ou on a des conditions particulières, parce que ça peut être aussi considéré comme un métier physique et peut-être pénible.
C'est une bonne question, il faudrait voir. Après, la pénibilité, oui, elle peut être présente par moment, mais on essaie d'adapter aussi par rapport à chacun, par rapport à chaque capacité de personnes sur les livraisons que l'on a, sur le flux. À savoir que, malgré tout, le salarié de 56 ans, qui est donc un des fondateurs également, reste l'une des personnes les plus performantes de l'entreprise, et certains jours le plus performant. Donc là, je ne sais pas tout. Et malgré tout, on est aussi dans cette logique de se dire, c'est peut-être un cas exceptionnel. Et on essaie de donner, en fait, un double statut à chacune des personnes qui travaillent chez nous, c'est-à-dire d'être coursier plus un métier administratif, donc coursier plus facturation, coursier plus gestion des stocks, coursier plus dispatcher, etc., dans l'optique soit de migrer vers un métier purement administratif pour ceux qui ne peuvent plus faire de la livraison physiquement, soit parce qu'ils auraient eu un accident, ou soit parce qu'effectivement, en vieillissant, ils ne se sentent plus capables de faire les choses aussi bien, ou alors tout simplement pour partir vers un autre projet, parce que c'est aussi ça, hein, le but d'une ligne coopérative, c'est de faire grimper tout le monde en compétences, que le projet professionnel de l'entreprise grandisse, mais aussi que le projet personnel de chacun puisse grandir, et puis soit que les personnes repartent vers d'autres projets, nous se retrouvera d'une certaine façon, soit que les personnes restent et continuent à grandir.
Un mot sur la référente RSE, donc responsabilité sociale d'entreprise.
On a été en tant qu'association jusqu'au 1er janvier 2020, ce qui nous a permis la possibilité d'avoir une référente RSE qui nous a accompagnés en fait, pendant toute l'année 2019, avec la possibilité d'inclure les RSE dès le départ de la création d'entreprise quasiment. Donc c'était assez intéressant parce que l'on a commencé à réfléchir grâce à ce qu'elle pouvait nous proposer. Puis donc là, petit à petit, elle part parce que évidemment, ce n'est pas logique d'avoir une personne bénévole à ce sujet-là, mais c'est quelqu'un voilà, qui a porté énormément la RSE chez nous, qui nous a permis de réfléchir autrement sur les achats que l'on faisait, sur le fonctionnement de l'entreprise, sur des suggestions comme par exemple dire ce serait bien qu'il y ait un ostéopathe qui vienne une fois par mois pour venir consulter chez personne des coursiers nantais parce que, évidemment, on est dans un métier aussi qui peut y avoir des problèmes de dos ou de genoux, ce genre de choses. Voilà, c'était son rôle jusqu'à maintenant.
Il y a des contrôles antidopage chez vous ?
Non, il n'y a pas de contrôle antidopage. À partir du moment où ils ne prennent pas de produits illicites, ils ont le droit de prendre les produits hein, qu'ils le souhaiteraient. C'est une question intéressante en tout cas, mais non, il n'y a pas de contrôle aujourd'hui.
Pour passer les commandes, vous faites appel à deux partenaires, Copcycle et Applicoli.
Copcycle, la fédération des coopératives de France, voire mis du monde, on peut dire, parce qu'il y a certaines coopératives qui sont à Berlin, à Bruxelles, au Brésil, au Canada, en Angleterre, avec l'objectif de mettre à disposition une marketplace pour les livreurs à vélo et également un logiciel de dispatch. Donc, on reçoit, lorsqu'on met de la marketplace en place, alors que ce soit nous sur les commerçants ou d'autres sur la livraison de repas, parce que certains s'attaquent directement à la livraison de repas contre leur délivre, eh bien, dans ces cas-là, on reçoit, nous, les commandes directement sur le logiciel de dispatch. Et sur le logiciel de dispatch, il y a aussi des entrées en B2B, c'est-à-dire que nos clients peuvent saisir directement leur demande de livraison sur ce logiciel-là, ce qui nous permet, nous, de recevoir les livraisons et de tout regrouper au maximum. Concernant Applicoli, c'est l'entreprise avec qui on a travaillé en premier, qui nous a vraiment suivi au tout début et nous a permis d'avoir également cette entrée où le client extérieur peut faire ses demandes. Ils ont chacun leur avantage, inconvénient. Applicoli va plus rechercher dans le détail des courses, justement, et ce qui peut être intéressant dans la mesure où, comme je disais tout à l'heure, il y a certaines livraisons, des fois, où on va avoir besoin d'énormément de détails pour pouvoir faire le calcul tarifaire, et Applicoli le permet, ce que ne permet pas comme ça actuellement. Chacun a avantage, inconvénient, mais dans les deux cas, ça reste deux organisations qui ont un très bon état d'esprit et avec qui c'est agréable de travailler.
Concrètement, on est obligé de passer par eux si on veut passer commande.
Non.
On peut le faire directement de...
Non,
on peut le faire sur votre site, je vais comprendre.
Sur notre site, enfin,
c'est en plus.
Voilà, c'est en plus, tout à fait.
On voit qu'il y a de plus en plus de structures à vélo qui sont des structures assez récentes. Est-ce qu'on peut déjà parler d'un nouveau secteur d'activité? C'est-à-dire les structures à vélo, parce qu'elles ne sont pas toutes forcément de livraison. Et est-ce que vous avez une vision sur l'ensemble de vos collègues et concurrents sur Nantes? Est-ce qu'il y a un peu des rassemblements? Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous avez une idée du nombre de structures et du nombre de personnes qui bossent comme vous à vélo?
Oui, tout à fait. Il y a effectivement une ferveur aujourd'hui sur la livraison à vélo qui a quand même commencé il y a quelques années. Nous, sur la partie locale, on se connaît. Les différentes entreprises à vélo, on échange par moment. On est sur une concurrence qui est quand même assez saine aujourd'hui. On a même un projet commun sur un client commun. Enfin, j'ai pris l'initiative en tout cas de contacter trois de mes collègues pour essayer de voir avec eux qu'est-ce qu'on pouvait créer parce que ça me permet d'avoir une concurrence de plus en plus saine en fait, tout simplement. Et puis je pense qu'il y a encore de la place pour tout le monde aujourd'hui. Donc autant faire en sorte que chacun puisse s'en sortir.
L'idée, ça serait de faire une fédération.
Non, ce ne sera pas possible, parce qu'après, chacun va avoir ses idées de façon un peu différente. Mais il y a les boîtes à vélo, par exemple, dans lesquelles on est tous présents, qui nous permet aussi de nous rassembler. Ça, c'est déjà quelque chose d'actuel. Après, par contre, effectivement, vu qu'on a chacun une mentalité de chiante, hein, qu'on est laissé les seuls étant en coopérative, eh bien... Il y a le Copcycle, justement, qui fédère les coopératives de livraison à vélo, où là, on se rassemble là-bas avec Volvo, par exemple, de Paris, avec les coursiers bordelais sur Bordeaux, les coursiers montpelliérains, voilà, plusieurs coopératives françaises qui ont des chances de bons procédés. Si on prend des nouvelles de chacun, on essaie de s'entraider, toujours de se donner des petits coups de pouce, de dire « Ah là, tu pourrais faire comme ça ou comme ça, tiens, est-ce que tu connais tes clients ?» On commence à travailler avec lui, fait qu'il ait une agence sur Nantes, ça pourrait t'intéresser. Ben voilà, il y a vraiment un système d'entraide aujourd'hui. Dans le temps, je ne sais pas si ça durera, dans le sens où effectivement c'est un nouveau métier, mais qui sera de plus en plus concurrentiel. Évidemment, quand on va se retrouver à 10 coopératives sur Nantes qui font la même chose, si un jour ça arrive, il y aura moins cette possibilité, parce que c'est un système de concurrence, évidemment. Donc je pense que ça se perdra un petit peu dans le temps, à moins que, et c'est là où ça peut être intéressant, qui est comme dans certaines villes, je pense que ça arrivera en tout cas, qu'il y a un rassemblement en fait de différents acteurs, où il y en a qui se disent ah, « ben, on aimerait bien monter une coopérative, on a vu que vous étiez déjà présent, on aimerait greffer au projet, de quelle façon on pourrait le faire ?» Et là, il y a une discussion qui s'entame, et j'espère en tout cas que ça se passera de cette façon-là, parce que c'est aussi ça, l'esprit d'une SCOP, mais aussi du monde du vélo, j'ai envie de dire d'une façon générale, qui est un monde d'entraide. Il suffit de voir, pour tous ceux qui font du cyclotourisme, dès qu'on voit un cyclotouriste qui est en panne, on s'arrête et on l'aide. Eh bien, je pense que ça fait partie de cet esprit vélo.
C'est important de véhiculer une bonne image. Donc, vous mettez en avant un certain nombre de valeurs, vous donnez de vos références et vous affichez des enseignes qui appartiennent à des multinationales. Vous faites les derniers kilomètres, donc c'est intéressant de savoir ce qui se passe en amont.
Oui, tout à fait. Alors, moi, je vais la jouer en jeu avec vous. Aujourd'hui, il y a déjà un modèle économique qui est important à trouver. Ceux qui passent le pas et qui peuvent donner du flux sont ceux qui sont un peu plus importants, on va dire, de façon générale. Malgré tout, c'est pas une raison de se dire, tiens, on va travailler avec eux. Ces entreprises qui sont mises en avant sur les sites sont aussi des références qui sont un peu plus connues, donc qui vont parler facilement à des clients, mais qui sont pas les seuls. Et derrière, je vous cache pas qu'on a eu la même réflexion. On travaille avec, par exemple, sur la livraison des courses quotidiennes, mais pour autant, on a eu la réflexion de se dire, attention, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait pour les commerçants? Qu'est-ce que l'on propose? Et c'est de là qu'est née une initiative qui s'appelle 1, 2, 3 courses, qui est la création d'une SIC. Donc une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. C'est-à-dire que la marketplace que nous, on a mis en avant avec CopSIC, eh bien, cette marketplace e-commerce, clairement, eh bien, on la met à disposition des commerçants avec qui on travaille, les commerçants locaux, pour leur proposer la possibilité d'avoir une boutique virtuelle. En plus d'avoir une boutique virtuelle, c'est d'avoir, grâce à cette boutique virtuelle, la livraison et le click and collect. Mais dedans, ils peuvent acquérir des parts de la SIC, et c'est là tout l'intérêt, la SIC qui va contrôler donc, cette marketplace, que ce soit sur les frais de gestion, sur les frais de livraison, ça va être sur la communication, la stratégie qui est adoptée par la marketplace. Et donc, chaque commerçant peut acheter des parts social de la SIC et également le consommateur peut acheter des parts de la SIC, mais également s'il y a des investisseurs qui souhaitent, ou par exemple la ville de Nantes, c'est ouvert. En fait, on fonctionne sur 5 collèges, donc le collège des transporteurs, le collège des commerçants, le collège des investisseurs, le collège des consommateurs et le collège de public, des collectivités. La création de cette SIC, c'est vraiment de se dire, bah voilà, il y a un modèle Uber et Deliveroo qui existe sur la livraison de repas. Nous, on crée la livraison d'une marketplace, sauf que cette marketplace, on veut qu'elle appartienne autant aux livreurs que aux commerçants. Voilà ce que nous, on a mis en place. Et c'est aussi un moyen un peu plus, j'ai envie de dire, éducatif, dans la mesure où l'objectif, c'est aussi de prôner les achats locaux. Là, par exemple, un des prochains objectifs sur la marketplace, ce serait de pouvoir proposer la monnaie locale directement en paiement sur la marketplace. Ben voilà, il y a plein de projets dedans et c'est ça aussi notre réponse, nous, de ce que l'on fait aujourd'hui sur les achats responsables.
Vous avez déjà connu un premier confinement, un déconfinement, un reconfinement. Quel impact ça a sur votre coopérative et son développement?
Oui, alors nous, ça a eu un impact aussi positif que négatif sur ces confinements. Alors, dans le cadre du premier confinement, on a eu un arrêt de pas mal de services, notamment je dis transfert entre restaurants, l'approvisionnement, restaurants en pain, etc., comme je l'expliquais tout à l'heure. On a eu davantage une transformation en fait de notre façon de travailler, de notre activité, qui était davantage sur du B2B, et puis on s'est transformé sur l'activité B2C, vraiment à faire la livraison directement aux consommateurs de ses courses quotidiennes ou des livres. Voilà, donc ça a été vraiment ce passage de l'un à l'autre qui a été assez dur et éprouvant pour nous, parce que le but c'était de s'adapter à cela. C'est pas toujours évident, mais ça a été une bonne chose au final, parce que par la suite, entre les deux confinements, on a réussi à réaugmenter, à reprendre les diverses activités pour la plupart, sauf pour ceux qui ont fermé, évidemment, parce qu'il y a eu le mal qui est passé par là, de reprendre donc cette double activité où le B2B a repris et cette activité B2C qui s'est installée, qui dure depuis. Le second confinement a été plus simple à gérer sur cette partie-là, dans la mesure où on a juste eu un arrêt des services B2B. Après, c'est une difficulté quand même d'avoir le service B2C qui augmente, qui est davantage un service à la demande. Donc, d'un point de vue planning, c'est plus éprouvant. D'un point de vue dispatching aussi, pour que les livraisons aillent bien pour telle ou telle personne, il y a moins de régularité. Alors que d'habitude, avec le B2B, on sait que tous les lundis, tous les mardis, il y a cette régularité sur les livraisons, parce que les restaurants, ils font tous les jours les transferts, ou ils ont toujours cet approvisionnement. Voilà, c'est un peu différent. Et pendant le premier confinement, on a eu aussi donc, le lancement d'1, 2, 3 courses à destination des commerçants, parce que c'était aussi notre objectif de pouvoir aider d'un point de vue numérique les commerçants locaux.
On est obligé d'employer des termes anglais. On ne peut pas traduire les B2C, les B2 machin.
C'est vrai que c'est une habitude. Dans les écoles, enfin les universités, c'est vrai qu'on nous forme, un peu trop sur des termes anglophones qui vont pourraient se traduire très facilement. C'est vrai, il faudrait faire un peu plus attention par rapport à ça.
Pour sa libre participation à ce 25e numéro de Reconfinez-vous à nous, réalisé avec la complicité de Valentin Beauvalet, merci à François Lemoine, coordinateur stratégique au sein de la coopérative cyclo-logistique Les Coursiers Nantais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire spontanément par rapport à votre entreprise, par rapport à la situation du moment ?
Spontanément, la situation du moment, elle est complexe, elle est en pleine évolution, où évidemment, il y a plein de projets qui vont s'arrêter, mais il y a aussi plein d'espoir, avec plein de personnes qui sont pleines de bonne volonté, de bonnes énergies, qui sont là pour créer des projets et mettre en avant des bonnes choses. Et peut-être que la situation que l'on vit est difficile pour le moment et qu'elle va nous permettre de passer des caps sur une transition un peu plus écologique et peut-être sociale aussi, où je pense que les projets coopératifs mutualisés vont éclore de plus en plus, que ce soit nous par exemple avec un 2-3 courses. Voilà, c'est une idée qui a plu, enfin, quand on l'a présenté à d'autres coopératives à vélo, elles sont tout de suite dit « ah ouais, ça serait pas mal qu'on puisse faire ce genre de choses ». Quand on présente aux commerçants, ils sont également intéressés, donc je pense que ça va permettre de passer un cap. Malheureusement, il y en a plein qui vont subir que réussir à s'adapter, mais aujourd'hui on n'a pas le choix que de donner énormément d'énergie si on veut justement que cette transition elle se fasse de la meilleure façon possible. Donc à nous de tenter le maximum en tout cas.